Alors, je vous présente une partie des travaux de ma thèse qui ont été financés dans le cadre du LabEx, ITEM. Donc, pour cette fois-ci, je vais vous parler de la montagne transfrontalière entre innovation, compétitivité, valeur ajoutée, nécessité de préservation de l'environnement. Alors, pour cela, j'ai deux terrains d'études. Le premier, Alpine-Maritime-Mercantour, qui est une coopération transfrontalière entre deux parcs, un parc national français créé en 1979 dans la douleur, et deux parcs et réserves naturelles qui sont associés progressivement côté italien. Il y a une habitude de coopération transfrontalière parce que c'était des territoires qui étaient communs, c'est un espace commun de vie entre France et Italie avant qu'on redéfinisse des frontières. Et là, c'est l'idée que la nature ne connaît pas les frontières des hommes et que ce serait vain de prendre des mesures de protection de l'environnement d'un côté et pas de l'autre. Donc, la coopération se développe de manière informelle jusqu'à un jumelage en 1987, puis se renforce et on aboutit à la création d'une structure juridique, le GECT, en 2013, j'y reviendrai. L'espace marin, c'est un cadre complètement différent, tripartite entre France, Italie et Suisse, une coopération autour d'un massif fédérateur, le Mont Blanc. Et là, c'est le rejet vraiment... un rejet complet et très fort des élus de créer un parc international, donc une protection qui serait imposée du haut vers le bas. Il y avait une tradition de rencontre des ministres de l'Environnement depuis plusieurs années, alternativement dans chaque État. Et sur cette base-là, les élus ont proposé de créer la conférence transfrontalière Mont-Blanc et de créer l'espace Mont-Blanc dans le but de à la fois conserver et préserver l'espace et de le développer économiquement, territorialement. Depuis, la création de l'espace Mont-Blanc se développe dans un cadre complètement informel, sans personnalité juridique, avec quand même une volonté de s'institutionnaliser qui se développe surtout depuis les années 2000, mais des contraintes trop importantes pour arriver à ça. Donc, les observations qui m'intéresse aujourd'hui pour ce que je vais présenter. D'une part, c'est la dépendance des projets menés par les coopérations transfrontalières au financement européen et aussi un certain glissement des objectifs. D'abord, objectifs initiaux, la protection et aujourd'hui davantage le développement local. L'hypothèse que je formule, c'est qu'il y aurait une orientation des actions transfrontalières par les politiques publiques européenne, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, qui impose des conditions très strictes de financement des programmes, notamment en matière d'innovation, compétitivité et valeur ajoutée. Donc, est-ce que montagne, frontière et environnement est synonyme d'innovation? Si j'essaye de formuler ma problématique en une seule phrase, ça donnerait comment les coopérations transfrontalières parviennent-elles à mener de front leur mission de protection de l'environnement, de développement territorial à destination des habitants, dans un contexte injonctif d'innovation, de création de valeur ajoutée, de compétitivité économique renforcée. Donc, l'innovation au cœur des politiques publiques, si on s'intéresse de près au texte, on s'aperçoit que dès la stratégie de Lisbonne en 2000, qui a très fortement orienté les programmes européens et les politiques de cohésion, notamment la dernière programmation 2007-2014 que j'étudie, et la future programmation avec la stratégie Europe 2020, on s'aperçoit que l'innovation est un axe majeur, est une grande priorité, et on s'aperçoit aussi qu'il y a une volonté de maximiser l'impact des aides en faisant de plus en plus, en agglomérant des fonds et en faisant des projets de plus en plus importants dans leur montant et aussi dans leur taille. Si on va du côté suisse, donc la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais participe activement au programme Interreg de coopération transfrontalière. Et la Suisse, d'une certaine façon, a anticipé les programmations européennes et, sous certains aspects, les dépasse, notamment avec la nouvelle politique régionale, qui en est à sa deuxième programmation, qui encourage fortement l'innovation dans les régions périphériques, ça veut dire régions rurales et montagnardes notamment. Et cette politique, elle encourage à la compétitivité et à la production de valeur ajoutée. Ce qui, en montagne, pose problème. Fini le financement de l'investissement, notamment Et on ajoute ce critère de production de valeur ajoutée qui, en transfrontalier, pose problème parce qu'on ne va plus pouvoir financer de la protection de l'environnement, par exemple. Donc l'espace minier va devoir revoir ses façons de faire et aller trouver des financements du côté de la COTRA France-Italie plutôt que de l'Interreg France-Suisse. La nouvelle politique régionale met aussi en évidence une nécessité d'envisager la complémentarité des territoires, c'est-à-dire de penser les territoires ruraux et de montagne de façon complémentaire aux territoires urbains et notamment périurbains, notamment en termes d'aménité, mais pas que. La NPR aussi pousse à une gouvernance plus adaptée, notamment en termes de politique sectorielle. L'idée, c'est de faire se rencontrer les acteurs de différents secteurs et désectorialiser les politiques. Donc ça, c'est au niveau horizontal, et au niveau vertical, se rencontrer les acteurs de différents niveaux. Et c'est important parce qu'en transfrontalier, on retrouve ce type de gouvernance horizontale et verticale. Alors, il y a de l'innovation en transfrontalier. Pour voir l'innovation, il faut se démarquer de l'innovation technique, technologique et aller vers l'innovation sociale. Je vous propose ma définition. L'innovation sociale, c'est pour moi la réponse d'acteurs à des besoins sociaux exprimés par les habitants notamment. Et par cette intervention des acteurs sociaux, ils répondent à des besoins en apportant des solutions nouvelles ou en réadaptant ces solutions. Et ces solutions modifient en fait les relations sociales ou les cadres de l'action traditionnelle. Quelques exemples de projets transfrontaliers qui sont dits innovants par les acteurs et que, à mon tour, je qualifie d'innovants avec un certain nombre de critères. Le premier, c'est un inventaire biologique généralisé. C'est pas le fait qu'il soit le deuxième plus grand inventaire au monde en termes de résultats, mais c'est plutôt le fait que les deux parcs aient réussi à regrouper 200 naturalistes de plus de 50 nationalités différentes et à les faire travailler ensemble et à produire un résultat qui est à disposition de tous. Donc il y a le résultat et aussi la façon de faire, de mettre en réseau les acteurs, qui est intéressante. Dans le deuxième projet franco-suisse planétaire, c'est la création et le développement d'un outil de planification énergétique territoriale qui permet d'avoir une vision globale et systémique d'un territoire sous l'angle de ses ressources et à la fois de sa production de ressources et de sa consommation énergétique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une démarche d'un laboratoire suisse qui va tester en transfrontalier sur des communes de montagne, un projet qui s'applique partout, parce que dans toutes les communes, on a plus ou moins de ressources, mais on a forcément des dépenses énergétiques. Troisième projet, j'illustre avec un projet de l'espace mobile, mais il y a eu un projet similaire du côté d'Alpes-Maritimes et Mercantour. Il s'agissait de coordonner l'offre touristique, notamment des gardiens de refuge et de cabanes du Tour du Mont-Blanc. L'idée, c'était juste de faire se rencontrer les acteurs et qu'ils parlent entre eux. Là, on a dépassé l'objectif puisqu'ils se sont rencontrés et puis ils ont créé une association et ensuite un outil en ligne de réservation. L'idée, c'est que tout le monde peut réserver son tour du Mont-Blanc en quelques clics et payer en une seule devise, au lieu de devoir aller et payer chaque refuge dans la devise locale. C'est aussi un succès économique si on en croit les chiffres et les bilans financiers et l'utilisation du site. Alors, il y a de l'innovation au cœur des processus de coopération transfrontalière. Cette fois-ci, c'est de l'innovation de deux types. L'innovation organisationnelle, qui est plutôt une amélioration significative de l'organisation existante, la création de nouvelles organisations, toujours dans le but de satisfaire un besoin social. Et ça, c'est important. L'innovation institutionnelle, c'est davantage modifier des processus de décision, de répartition des pouvoirs, de contrôle des richesses. C'est une définition que j'emprunte à Levesque et qui fonctionne assez bien aussi dans mon cas. Donc, des exemples. Le plan intégré transfrontalier, c'est un outil de gouvernance coordonné du programme ALCOTRA, donc ce programme interreg de coopération entre la France et l'Italie pour la période 2007-2013. Et cet outil, en fait, il permet de coordonner différents projets. Au lieu d'avoir des projets simples, les uns à côté des autres, menés par des acteurs qui se connaissent et d'une même coopération transfrontalière, on va les regrouper dans un projet et sous un chapeau, un projet qui va coordonner les autres projets et surtout qui a vocation à communiquer, parce qu'il y a un très gros déficit de communication dans Interreg et dans les projets transfrontaliers en général. C'est aussi un outil de développement territorial. Donc, c'est, le PIT, c'est pas d'apporter toutes les coopérations transfrontalières. Il faut d'abord avoir une coopération qui a un territoire qui est globalement défini, parce que l'espace Mont Blanc, c'est pas exactement ce que je vous ai présenté sur la carte avec un trait rouge. C'est plus compliqué que ça. Il faut avoir une stratégie, une vision territoriale à plus ou moins long terme pour pouvoir développer un plan intégré transfrontalier. C'est aussi la possibilité de créer de nouveaux partenariats et des partenariats qui sont au-delà des limites transfrontalières. On va de plus en plus chercher des acteurs qui ne sont pas des acteurs transfrontaliers, enfin, transfrontaliers au sens à proximité de la frontière, qui sont de plus en plus loin, puisque les périmètres de coopération transfrontalière ont évolué. C'est aussi le risque, du coup, de faire du faux transfrontalier, c'est-à-dire d'attirer des acteurs qui sont là juste pour l'intérêt économique, la présence de fonds européens, et la possibilité de faire développer de nouveaux projets, peu importe qu'il y ait une frontière ou pas. Du point de vue de l'innovation institutionnelle, on a le groupement européen de coopération territoriale. Donc, l'Alpine Maritime et Mercantour a créé son groupement en 2013. L'espace Mont Blanc n'est pas encore parvenu à ça. Alors, c'est un instrument juridique européen qui est issu du règlement de 2006 et qui a été modifié très sérieusement en 2013. Et c'est un outil important parce que c'est la première fois qu'au niveau européen, on peut avoir un outil juridique doté, qui dote les coopérations transfrontalières de la personnalité juridique et qui est utilisable à la fois aux frontières internes de l'Europe et aux frontières externes de l'Europe. Et ça, c'est un outil qui est harmonisé. Jusqu'à présent, on avait des conventions bilatérales qui permettaient de faire des choses, mais à minima, et surtout, c'était pas harmonisé au niveau européen. C'est aussi un outil de gouvernance, parce qu'il prévoit une gouvernance minimum avec un président et une assemblée. Et ça, c'est aussi une nouveauté, parce que ce qui manque dans les coopérations transfrontalières, c'est l'information aussi auprès des communes qui sont membres. Et là, ça permet d'obliger, d'une certaine façon, à avoir une information minimum et à avoir un dialogue. C'est un outil de gestion financière parce que, nouveauté encore, ça permet d'agréger différents types de fonds et de gérer un budget au niveau transfrontalier. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le compte d'apothicaire, alors toi tu as apporté tant cette année, toi tu as apporté tant l'année prochaine, tu devras apporter plus ou moins parce que l'année précédente tu avais apporté. Là, on peut avoir une vision, en tout cas budgétaire, et faire un vrai budget. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une vocation simplificatrice, notamment parce que le GECT permet de faire progresser le droit contractuel et aussi d'avoir un droit commun. Et ça, c'est une nouveauté. À la place de soumettre la coopération transfrontalière au droit du siège, c'est-à-dire si le siège à Pimaritime, par exemple, le siège est à Tende en France, la structure juridique est en Italie, donc c'est un petit peu complexe parce que c'est des Italiens qui doivent appliquer le droit français, donc c'est pas le plus simple. Là, on a au moins dans les conventions et statuts du GECT une forme de règle minimum. On va dire, bon, bah, pour tel aspect, on va soumettre à telle règle. Et c'est la composition d'un droit particulier qui s'applique sur un territoire particulier. Alors ça, c'est pas encore communément accepté et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas conscience des enjeux juridiques, et c'est bien dommage, parce que de ce point de vue-là, il y a vraiment une innovation et quelque chose qui répond aux besoins. Alors, comme je suis dans une session un peu critique, c'est bien d'innover, mais pourquoi et à quel prix? Ce que j'ai mis en évidence dans mes entretiens, et ce que les acteurs disent, ils dénoncent une certaine forme de course à l'innovation, d'injonction d'innover. Toujours innover, toujours faire plus de nouveau, sans forcément s'intéresser et faire le bilan de ce qui s'est déjà passé avant, voir si c'était positif, négatif, et voir ce qu'on fait après. Et ça, c'est un premier problème aussi parce que les critères d'évaluation des programmes Interreg pour donner des fonds se font vraiment sur l'innovation. Si on dit « je vais innover », on doit avoir des fonds. Si on ne met pas le mot « innovation », on ne les a pas. Voilà, c'est comme un peu dans la recherche. Alors que l'innovation, c'est un processus qui est complexe, qui n'est pas linéaire et surtout dont le résultat est imprévisible. Souvent, on prévoit quelque chose et on peut avoir un résultat qui dépasse les espérances. C'est le cas du projet que vous avez présenté autour du Mont Blanc. Et puis des fois, ça tombe un peu à l'eau parce que les acteurs n'arrivent pas à se coordonner. Et c'est le cas d'Alpine Maritime Mercantour qui avait un projet similaire. Donc il y avait de l'innovation prétendue, attendue, et puis elle n'est pas arrivée. Et c'est, donc, On a un problème parce qu'on n'a pas une définition commune de l'innovation. On emploie le mot tous les jours, tous, on l'entend, mais on ne sait pas ce qu'on a derrière. Et c'est le problème transfrontalier. Et donc, il n'y a pas non plus de possibilité d'évaluer le caractère innovant a posteriori, parce qu'il faut du temps même pour dire que c'est une innovation. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, la proposition, et ça, c'est pas la même, hein, c'est la littérature canadienne est assez fournie là-dessus, elle propose de regarder du côté de la diffusion de l'innovation. Est-ce que les innovations se sont diffusées? Est-ce qu'elles ont été appropriées par les personnes qui devaient être réceptrices, c'est-à-dire la population qui avait ce besoin, qui avait émis ce besoin, ou pas? Il faut aussi prendre en compte que l'innovation, elle peut être territorialisée, elle peut répondre à un besoin local, particulièrement local, qui n'est pas le besoin d'un autre territoire. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément d'essaimage de diffusion territoriale, à proprement parler. L'innovation, elle peut être aussi territorialisante, et c'est, je crois, le cas de l'espace mouvement qui, à l'origine, avait une démarche innovante, et puis bah, petit à petit, ça s'est institutionnalisé, et puis bah, l'innovation, elle est morte. Et je pense que la destination de toutes les innovations, c'est de mourir, c'est la mort, qu'elle soit positive ou négative. Il faut s'interroger sur que fait-on des innovations ratées. En transfrontalier, il y avait plein de bonnes idées, et puis des fois, ça grippe, on ne sait pas pourquoi. Ça s'est arrêté là. Et en transfrontalier, on n'a pas les possibilités de redéposer un autre programme Interreg pour faire mieux. Il faut toujours faire quelque chose de nouveau. À la limite, si ça a bien marché, on peut proposer un deuxième programme qui va ressembler, mais il va toujours falloir qu'il y ait quelque chose de nouveau. Que faire aussi des actions qui ont été un succès et comment les pérenniser en dehors des programmations Interreg? Par exemple, c'était la mise en œuvre de lignes de bus transfrontalières qui ont très bien marché, qui étaient gratuites. Et on sait très bien que si on enlève la gratuité, bah, les personnes vont reprendre leur véhicule personnel et ne vont plus emprunter ces bus, ces lignes de bus. Donc comment on les finance après la période de programmation Interreg? Que fait-on de ces innovations? Il faut aussi prendre en compte le surcoût du transfrontalier. Alors c'est une évidence pour les personnes qui font du transfrontalier, ça l'est un peu moins quand on est en dehors de cette sphère. Faire avec différentes parties, deux ou trois pour l'espace Mont-Blanc, c'est un coût financier parce qu'il faut se déplacer, il faut se rencontrer, et aussi un coût dans le quotidien, faire des rencontres avec des gens dont on ne parle pas la langue, on ne parle pas la même langue, dont on n'a pas la même culture administrative, les mêmes cultures tout simplement, ça peut être difficile. Donc c'est un surcoût pour faire ensemble. Donc ma conclusion, c'est qu'il y a eu un décalage les actions qui étaient à la base environnementale vers du développement économique, c'est certain. L'espace mondial, le programme européen était davantage une opportunité de faire ce développement économique parce qu'il l'avait affiché, c'était à peine caché à l'origine. Et les programmes européens qui ont débuté il y a 25 ans étaient une réelle opportunité pour l'espace mondial. Pour Alpine Maritime et Mercantour, c'est un petit peu moins radical parce qu'il y a une loi française en 2006 qui a permis aux parcs nationaux français de faire du développement local et de sortir de leur action première qui était la conservation, la protection de l'environnement et d'aller vers davantage d'actions économiques comme c'était le cas pour le parc naturel régional en Italie. Donc ça a permis que les deux coopérations se rapprochent et mènent d'autres types d'actions. Donc, qui n'étaient pas forcément des actions de protection de l'environnement stricto sensu. Je vous remercie.